Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cienociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a la vie comme à la scène et d'une fidélité digne des meilleurs épagnols bretons. Aussi, c'est toujours avec émotion et envie qu'il accueille la perspective d'une nouveauté signée par l'un ou l'autre de ses chouchous. Si vous nous suivez depuis un moment, vous vous en serez rendu compte vous-même. Ça se vérifie une nouvelle fois alors qu'arrive sur les écrans français Baby Driver, le dernier film d'Edgar Wright qu'on aime très fort, dont on a déjà parlé par le passé, mais on va pas se gêner pour le refaire avec les 4 pilotes de l'extrême réunis autour de la table ici à l'antenne Paris, Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Bonne auberge.
Alexandre Hervaux, salut Alex.
Coucou.
Je ne relève même plus. David Honora, salut David.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Toto.
Ah, vous allez arrêter de faire n'importe quoi, c'est nos ciné, épisode 95 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Ça promet, vous êtes déjà intenable. Baby Driver, ça nous raconte l'histoire de Baby alias Ansel Elgort qui, vous l'avez deviné, est un driver, un conducteur, un pilote un peu particulier puisqu'il officie lors de braquages millimétrés au centième près par Doc, un énigmatique chef mafieux qu'incarne Kevin Spacey, Baby étant le seul membre fixe de ses équipes de braqueurs qu'il change à chaque coup, ce qui nous donne l'occasion de voir défiler un cast 3 étoiles qui va de Jamie Foxx à John Hamm en passant par Isaac Gonzalez ou le sémillant Flea des Red Hot Chili Peppers qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis bien longtemps. Mais si Baby est toujours là, ça n'est pas par choix. Il opère sous la contrainte pour payer une mystérieuse dette à Doc et espère s'en libérer pour pouvoir conter fleurette à son amoureuse Debra, incarnée par Lily James, et s'adonner à son autre grande passion à part les voitures, la musique. Et il y a plein de musique dans Baby Driver, presque trop par instant. Moi, le parti pris très musical du film m'a un peu sorti par moment de son intrigue, mais ce petit défaut est compensé par une succession de morceaux de bravoure, notamment lors d'une série de courses-poursuites en bagnole qui vous colle une jolie suée entre les fesses, ce qui est tout à fait notable. Mais sans plus attendre, je passe la parole à mes camarades. Votre avis sur ce Baby Driver, messieurs, qui veut commencer? Arnaud, tu es dans les starting blocks, je te
Quel
sens.
Quel sens du pitch, tu m'as bluffé.
Ça t'a fait plaisir.
Bah après, justement, le pitch, quand même, même si tu l'as très bien résumé, parce qu'il y a beaucoup de personnages, quoi, mais c'est une intrigue assez linéaire, hein, qui n'est pas particulièrement torturée quoi, dans son organisation. Mais justement, je pense qu'après, l'intérêt, il est autre. Quoi. L'intérêt, c'est de proposer une véritable expérience aux spectateurs, d'avoir ainsi monté le film sur de la musique, quoi. À tel point que la sensitivité du film nous fait ressentir intimement quoi les pulsations du personnage principal quoi et de sa manière d'appréhender le monde quoi parce que
pas précisé que Baby écoute de la musique en permanence
tout le temps.
Il a un casque vissé sur les oreilles en voilà, tout le temps parce qu'il a un défaut d'audition parce qu'il a un acouphène qu'il y a un accident
toute la musique du film, il n'y a pas vraiment de score de bande originale à proprement parler, toute la musique du film
c'est sa musique à lui,
donc c'est diégétique comme on dit hein, voilà.
Ah, c'est beau.
Intradiégétique,
tout à fait.
Bah, les gars, vous avez fait des études ou quoi?
Bon, j'ai eu un truc avec Bernard Pivot. Quoi.
Mais
pardon, donc... continue. Parce que... Merci Alexandre, tu peux partir.
Je ne sais plus ce que je disais. Ce qui est intéressant justement, c'est le fait que tu précisais l'histoire de la couffaine. C'est que c'est un personnage, donc on a un personnage principal qu'on suit pas à pas, auquel on est collé pendant tout le film, et à la subjectivité, à l'intériorité de laquelle on est collé, quoi, vraiment, quoi. Et donc c'est un personnage qui a un défaut pour apprendre le monde, quoi. Et un défaut qui est assez insupportable, au sens difficile à supporter, quoi. Et donc la manière qu'il a choisi de voir le monde, à travers la musique qu'il ressent au fond de lui, quoi, dans tout son être, c'est la manière qui lui permet de supporter l'existence, ce chemin. Donc tout ça, ce sont des éléments, intradiégétiques ou narratifs, le montage, la mise en scène, tout ça, qui définissent le personnage. Et c'est ça, moi, à mon sens, qui fait que si on accepte de monter dans la bagnole, c'est C'est vertigineux tout ce qui se passe. Moi, je suis ressorti vraiment extatique. Et j'ai rarement eu dans un film une impression de d'expérience physique aussi forte. Et alors, c'est des trucs que j'avais ressenti sur certains films des Edgar Wright précédents, quand même. Quoi, hein, je me rappelle notamment de Hot Fuzz ou du dernier pub
avant
la fin du monde. Mais à ce point-là, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je pense que c'est vraiment son film le plus radical, quoi.
Ouais, c'est un niveau en fait de densité pendant tout le film qui moi en tout cas à la première vision je suis sorti peut-être moins extatique et plus presque exténué en fait par la quantité d'informations que mon cerveau venait de recevoir. C'est un film qui est extrêmement, enfin mine de rien, qui reste très fun par son sujet, son apparence, etc. Mais qui, dans sa structure et même dans son rapport au cinéma, est très élaboré et très complexe. Et ce que je trouve intéressant dans le cinéma d'Edgar Wright, c'est que à l'inverse de cinéastes de générations précédentes qui ont pu travailler les genres en les tordant ou en essayant de voir ce qu'ils pouvaient en trouver, il a eu un rapport au cinéma et au genre qui se rapproche, je dirais, de la musique, notamment de la musique électro à partir des années 80-90, qui est une culture du mash-up, du remix, et qui va chercher à mélanger les genres. Donc dans son cinéma, avant, que ce soit à partir de Shaun of the Dead, où il mélange le film de zombies et la comédie, évidemment dans Hot Fuzz avec le cinéma policier et la comédie également, ou la manière aussi dont le genre intervient dans Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde, de manière un petit peu inattendue quand on regarde le début du film. Là, on est dans un mash-up très élaboré, où on est à la fois dans le musical, vraiment pur film musical, très, très structuré autour de la musique, le film de braquage, le film de bagnole. Et tous ces gens en fait s'imbriquent les uns les autres. Il y a aussi la romance qui est très importante, et qui est traitée de manière assez intéressante. Je pense qu'on va revenir dessus. Et du coup, on est un peu emporté, brinque-ballé, voilà, dans tout ça. Ce qui est frappant dès le début, c'est la manière vraiment radicale d'associer le montage et la musique. Et donc, vraiment, tout le montage du film et tout le découpage répond de manière presque, enfin, millimétrée à l'écriture musicale.
Totalement millimétrée.
C'était prévu dès le départ. Hein, dans le scénario, il avait la musique de chaque film avant le tournage, en fait. Hein. Donc, ils avaient passé toute la pré-production à acheter les droits pour être sûr d'avoir les droits. Et il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait ou presque. Les seuls trucs qu'il n'a pas pu avoir, visiblement, c'est des morceaux plus hip-hop qui eux-mêmes contenaient des samples qui n'étaient pas totalement clean au niveau des droits. Donc, ça aurait été compliqué. Mais tout était fait à l'avance. Quoi.
Et le projet remonte, à mon avis, à quelque chose qui lui trotte dans la tête depuis un petit moment. Notamment, Stéphane, je pense que tu peux parler du clip qu'il avait réalisé.
C'est un truc qu'il a en tête depuis des années. Apparemment, ça lui vient des Blues Brothers, en fait. Et l'idée de base, qui est la scène d'ouverture du film, vraiment la toute première scène, la présentation de Baby, qui avant qu'il aille faire son petit show musical en allant chercher les cafés, encore avant ça, en fait, quand il est dans le braquage et qu'il attend dans le truc et qu'il se met un morceau de musique, c'est un clip entier qu'il avait réalisé au début des années 2000, 2002-2003, par là, pour un groupe qui s'appelle, je ne connais pas, je connais que par ce biais, qui s'appelle Mint Royal, je crois. Et en gros, c'est ça, c'est un driver, en fait. Donc là, il y a l'influence de Walter Hill aussi, direct. Un driver, en fait, qui attend, en fait, que comment dire, les braqueurs fassent leur coup pour les sortir, pour prendre la fuite. Et c'est leur chauffeur, quoi. Et en fait, en attendant, il écoute la musique et il y a toute une attitude et tout un jeu comme ça de dans l'attente qui est là. Et comme tous les films comme la la plupart des films d'Edgar Wright, en fait, c'est des films qui sont très travaillés, très écrits depuis des années, en fait, et qui sont très pensés depuis très longtemps. Donc, du coup, Arnaud me disait en antenne, ah, quand il parle de ce morceau, c'est quoi ton morceau préféré? J'étais sûr que ça allait revenir. Bah oui, c'est le fonctionnement d'Edgar Wright en permanence. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il évoque un truc quelque part, quel que soit dans le film, en fait, on sait que ça va revenir sous une autre manière plus symbolique. Voilà. Moi, je voudrais revenir un peu sur l'aspect dense du film. J'ai un peu le même, sentiment, mais c'est pas un sentiment qui me pose problème, en fait, quand j'ai vu le film la première fois, parce que j'en ressors avec toute, vraiment, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, mais j'ai encore vraiment toutes les scènes en tête assez fraîches. C'est vrai que c'est beaucoup à emmagasiner. Plusieurs choses à dire là-dessus. Il a pas le. Moi, les deux films ne sont pas vraiment comparables, hein, évidemment, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mad Max Fury Road à cette table.
Ah.
Donc,
j'étais presque surpris.
Même si le film n'est pas comparable en tant que film. Il y a
des voitures.
Il faut savoir deux choses. Il faut savoir que, un, il n'a pas l'expérience non plus de George Miller, et deux, il n'a pas le budget de Mad Max Fury Road. Donc le truc, c'est qu'il y a aussi, je pense, ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'ambition qui est très poussé, et peut-être pas forcément, en termes de fabrication, la possibilité de le faire de manière aussi fluide. Justement un film comme Mad Max Fury Road qui passe tout seul, en fait, qui glisse tout seul. Et le truc, c'est que j'ai envie de dire, si on parle de défauts, c'est des micro défauts à mon sens, quoi. Moi, ce que je retiens là dedans c'est aussi l'emploi des détails, en fait. C'est à dire que on parlait de la relation amoureuse, mais il n'y a pas qu'une relation amoureuse dans le film, il y en a plusieurs, en fait. Et donc ça, c'est aussi très intéressant, parce que ça dévoile une espèce d'humanité dans le film, en fait, qui est pas inattendu, parce qu'on la connaît, hein, de la part d'Edgar Wright, pour ceux qui ont vu World's End, Shaun of the Dead, la façon dont les relations entre les personnages fonctionnent. Toutefois, quoi, tu les as chez les méchants, tu les as partout, en fait, tu les as chez des gens qui pourraient être des antagonistes, tu vois, s'ils sont les antagonistes, il y a cette notion humaine. Et il y a ce nouveau truc, un peu, pour moi, je trouve. Les films d'Edgar Wright ont. Ce qui est génial avec Edgar Wright, c'est la raison, je pense, pour laquelle on l'aime tous à cette table, c'est que il a un peu cette logique de. Quand tu parlais de mashup, moi, il y a cette logique à la Tarantino, il va chercher les films qu'il aime, mais au final, le film, c'est un film d'Edgar Wright. Il n'y a pas d'autre personne qui fait un film comme ça, en fait. Et là, t'as, je pense, la même logique, encore une fois. Avec des nuances très spécifiques sur le ton émotionnel du film et l'emploi de la musique. C'est-à-dire que dans l'emploi de la musique, moi, par exemple, un truc que j'ai apprécié énormément, c'est qu'il y a deux éléments, je me rappelle deux détails spécifiques. Dans une scène d'action, je ne sais plus quel est le morceau de musique, encore une fois, je l'ai vu qu'une fois, donc je ne me rappelle plus trop. Il y a cette façon de remixer le morceau en fonction de ce qui se passe à l'écran. Ça veut dire que ce n'est pas seulement monté sur la musique, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que la musique est montée sur ce qui se passe à l'écran. Et le truc, c'est que du coup, ce moment qui est tragique, alors le morceau ne l'est pas, il le fait dilater de manière orchestrale pour avoir son payoff au moment où un personnage se lève et se met à tirer dans le tas parce qu'il est choqué par la situation. Voilà. Donc ça, déjà, moi, un mec qui travaille ce son-là de manière aussi poussée, je trouve ça formidable, quoi. Y compris dans les chansons qu'il est censé connaître, en fait, il les adapte quand même à son film, il n'adapte pas son film à ses chansons. Et inversement, il y a ce moment incroyable avec la chanson de Barry White, quoi, qui est une chanson très très marquée, moi j'adore Barry White, donc j'ai pas de problème avec ça, mais le truc, c'est qu'il y a...
Ça n'étonnera personne autour de cette table.
Voilà, mais...
C'est la musique cliché par excellence, tu veux dire.
Pour beaucoup de gens, et puis qui a été parodié dans des films de merde, style American Pie, et du coup, en fait, voilà, ça donne une image un peu ridicule.
Quand tu prends une chanson comme ça pour faire une scène comme ça, c'est un véritable challenge, quoi.
Voilà, exactement. Et le mec, il te fait une scène qui est d'une tension à couper au couteau, et dans laquelle, en fait, le morceau participe également à cette logique, quoi. Moi, la seule fois où j'ai vu ça au cinéma de mémoire, c'est dans Summer of Sam de Spike Lee, où t'as une scène de rupture sur une chanson disco, même si le thème de la chanson, c'est Don't Leave Me This Way. Enfin voilà, il fallait le faire, il fallait avoir les couilles de faire une scène de rupture hyper déchirante, hyper touchante sur un gros morceau disco bien connoté. J'ai même limite envie de dire bien beauf, quoi. Donc le truc, c'est que voilà, ça, pour moi, c'est une marque de parce que ça participe de ça, hein, chez le cinéma, la musique, en fait, la façon d'utiliser la musique, c'est la marque d'un grand cinéaste, en fait. Et voilà. Enfin, je...
Alexandre.
Et en parlant de musique, c'est vrai que ce film-là, c'est une succession donc, de morceaux pop, mais de genres différents. Et donc, c'est une énorme playlist d'une heure quarante. Et de la même façon qu'une playlist réussie, ça ne va pas forcément être une playlist monomaniaque qui va se contenter d'un seul type de style, parce que sinon, c'est quand même assez relou. Le film est lui-même à une rupture de ton quand même assez importante entre le début qui, malgré l'action, malgré les casses, est quand même un film plutôt léger, plutôt solaire. Il y a beaucoup de poursuites qui sont tournées deux jours. C'est tourné à Atlanta. Ça a été tout un bordel pour tourner parce qu'il fallait évidemment bloquer les routes, etc. Et la fin, elle est plus sombre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est nocturne, ce film est de nuit. Il y a une scène, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même plutôt vers la fin, mais c'est une scène de parking qui est... hyper bien tourné, avec une photographie incroyable avec les visages, voilà, qu'on a, moi ça m'a fait penser
à la photo là.
Ouais,
le ça m'a fait Bill de Pop, Sam Raimi,
Spider-Man, Matrix et tout. Il y a des plans qui m'ont fait penser à des giallo avec voilà des couleurs rouges très criardes sur le visage de John Hamm, et il y a même dans le scénario, et là pour le coup j'en dirais rien, mais il y a vraiment une noirceur qui s'installe, oui, au deuxième tiers, voire à la moitié du film, et ça correspond à cette volonté-là d'Edgar Wright, comme quand tu ferais une playlist où tu changerais d'ambiance par-ci, par-là. Lui, il revendique clairement ce virage, sans mauvais jeu de mots, vraiment au milieu du film, où on s'aventure vers autre chose, et c'est clair que nous, on l'apprécie beaucoup pour son talent de comédie, et comédie essentiellement visuelle, même si grâce à Simon Pegg sur sa trilogie Cornetto, il avait aussi plein de vannes écrites qui étaient de dialogue qui étaient très bons. Mais là, le film, malgré quelques passages assez drôles, on est d'accord, c'est pas une comédie. Il a même d'ailleurs demandé à ce que ce soit pas qualifié comme action comédie, mais comme action thriller. Parce que c'est-à-dire, voilà, faut pas que les gens s'attendent à aller retrouver la légèreté, les vannes qu'on avait pu voir dans ces
précédents. Il y a un peu d'humour, mais c'est de l'humour comme il peut y en avoir chez Tarantino, quoi.
Voilà, exactement. La scène, bon, alors là pour le coup on spoil pas parce qu'elle est dans un des nombreux trailers du film, oui. Et cette fameuse scène hilarante avec le masque de Mike Myers, petite confusion entre Michael Myers, le tueur des Halloween, et Mike Myers, l'acteur de Wayne's World
et Jason
voilà, donc voilà, truc référentiel très drôle, mais voilà, donc moi j'ai la même réserve, enfin pas la même réserve mais la même impression de trop plein presque,
voilà. C'est une sorte de film somme, hein, ouais, aussi dans l'œuvre d'Edgar Wright. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, à posteriori, évidemment, en réfléchissant au film, mais que c'était comme si toute la filmo d'Edgar Wright menait à ce film. Il y a, par exemple, des trucs de montage syncopé, à la fois elliptique et très haché, comme on voyait, il y a plusieurs séquences comme ça dans ces films précédents, quoi. C'est un peu ça trademark, quoi. Ils ont même essayé de le singer de manière pitoyable dans le Ant-Man dont il a quitté les commandes, quoi. Et donc ça c'est repris, ce genre d'artifice c'est repris à l'échelle d'un film entier, quoi, pour justement arriver à caler sur la musique. Donc il y a un vrai côté comme ça, je pense pas qu'il l'ait théorisé, qu'il soit lancé ça comme un défi, mais il y a peut-être que je pense que c'est une réaction naturelle à la frustration qu'il a emmagasinée sur Ant-Man. C'est un film, il en reste quelques oripeaux flageolants, quoi, mais qui semblait bourré d'idées, quoi. Et peut-être que c'était une manière de redécharger toute sa créativité frustrée là-dedans.
Ouais, parce que moi, j'irais pas forcément jusqu'à dire que c'est un film somme, mais par contre, c'est un film sur lequel il doit démontrer, plus que n'importe quel autre film après ce qui lui est arrivé, qu'il a le contrôle en fait de son film. C'est-à-dire que c'est ça le truc avec Edgar Wright, c'est que on parle de quelqu'un qui extrêmement rigoureux, qui a réécrit ses films en permanence en fait, et c'est des une comédie comme Shaun of the Dead qui est brillantissime, hein.
Sure.
Et en même temps complètement unique, encore une fois, c'est minimum un an et demi de travail au scénario, avec des tableaux, des machins, enfin, on peut se documenter très facilement, tout ça se voit sur les DVD, les Blu-ray. Donc voilà, et c'est un travail de fourmi, quoi. Et plus encore, surtout après, j'imagine, effectivement, l'idée, encore une fois, de revenir sur l'idée que Ant-Man lui a échappé et qu'on envoie des bribes par-ci,
après,
par-là.
Après l'a porté pendant des années.
Alors qu'il l'a porté pendant 7-8 ans, et qu'il s'est barré à la dernière minute, quoi, en gros, 2 mois avant le début du tournage.
Le film allait se faire, ouais.
Voilà, et quand il a été acculé, en fait, tout simplement, mis dos au mur, quoi, et qu'on lui a dit, c'est ça ou c'est fait rien. Quoi.
Cornérisé donc, par le studio. Voilà. Ouais.
Il est, faut assumer, en fait, faut assumer déjà de quitter un blockbuster de cette taille-là, que tu portes de manière assez personnelle, parce que l'idée d'adapter Ant-Man, c'était lui.
C'est lui, oui.
Voilà, c'est lui qui l'a proposé à Marvel à l'époque.
Hein. Il voulait le faire même avant même que l'univers partagé de Marvel soit lancé. Voilà. Quoi.
Oui, on en parlait déjà il y a bien 10 ans. Ouais.
Et donc, en fait, revenir avec son propre projet et avoir le contrôle absolu derrière et le démontrer, je pense que c'était très important. Et ça, je pense que c'est conscient pour le coup. C'est pas quelque chose de, comment dire... Donc je le vois pas tant comme un film somme, plutôt que comme un film en fait qui habitait dans la façon dont ce qu'il raconte, dans ce que ce qu'il raconte, parce que comment dire, le personnage de Baby que tout le monde considère comme un autiste, et même y compris ceux qui savent qu'il est brillant en fait, c'est lui quoi. Il y a vraiment une logique derrière là-dedans de comment dire, c'est le mec que personne ne sait qu'il est vraiment fait pour le job en fait. Oui. Et le film démontre ça quoi.
Et en même temps, tout ça, il le fait avec beaucoup de générosité et sans que ce soit dans un esprit revanchard. Quoi, Pour moi, vous savez qu'il y a un cinéaste que j'apprécie particulièrement, qui a eu une période un petit peu difficile dans sa filmographie, qui est M. Night Shyamalan, et
je découvre ça
qui a un moment de sa carrière s'est retrouvé à vouloir un petit peu dire à tout le monde qu'il faisait ce qu'il voulait et que c'était un génie,
que les critiques se trompaient,
et là Edgar Wright se trouve dans fait suite à une situation, je pense, qui était vraiment difficile à vivre dans sa carrière. Et finalement, le plus naturellement du monde se dit je vais faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire un bon film. Quoi. Et moi, le côté trop plein, je ne le vis pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme j'ai envie de revenir vers le film, de le revoir pour essayer de mieux l'appréhender.
Je pense que c'est un film qui va devenir de plus en plus limpide. Je pense que c'est un film qui va devenir de plus en plus limpide. Et l'autre truc, la distinction éventuellement avec Shyamalan au-delà des personnalités, c'est qu'un cinéaste comme Edgar Wright, il peut toujours revenir en Angleterre. Oui. C'est-à-dire, il a sa place là-bas et en fait, il peut toujours faire des films là-bas. Shyamalan,
il peut retourner en Inde, non ? Non ? Non. Excusez-moi.
Arnaud.
Désolé.
Il a tourné un film en Inde, Shyamalan.
Voilà. Merci, Alex.
Totalement justifié.
Mais tout ça pour dire que il se sent obligé de revenir à des petits
budgets. Commentaires qu'on va voir.
Voilà.
En parlant de son premier film, Praying with Anger, mais bon là, on est.
Non,
c'est
loin.
On
n'est
pas une émission sur Shyamalan. Une émission sur Edgar Wright.
Non mais voilà, c'est toute la distinction. Je pense que c'est que comme c'est un type qui a, enfin, Shyamalan a débuté dans le cinéma anglais. Tout simplement, et pour moi il l'a revivifié d'une certaine manière quoi, il peut toujours y revenir et je pense qu'il sera toujours le bienvenu en fait, parce que c'est quand même quelqu'un qui, dont ce premier film date de 2004, son premier long métrage. Bon, il avait fait une série qui était un peu culte mais qui n'a pas continué non plus, à laquelle ils n'ont jamais apporté une troisième saison pour boucler la situation. Il avait bossé sur plein d'autres petits trucs et tout, mais Shaun of the Dead, c'est un classique, alors que le film, il a 13 ans.
C'est ça, et surtout, il faut vous rappeler un truc, c'est que ce mec-là, il a 43 ans, ce qui est extrêmement jeune par rapport à ses pairs avec qui il traîne, avec qui il s'entend hyper bien. Tarantino, il a passé presque un an chez lui dans la guest house quand il écrivait Scott Pilgrim, il s'entend hyper bien avec Del Toro et tout ça, et ces mecs-là, c'est des quinquagénaires, tu vois, et donc il s'entend hyper bien avec eux, et il est considéré comme faisant partie de la même génération de cinéastes, parce qu'il a pas la même génération, en tout cas il est identifié comme ce cinéaste fanboy, geek, cool, talentueux, etc., alors qu'il en a quand même beaucoup moins, enfin il a une énorme expérience, mais il a commencé extrêmement jeune. Il a fait son premier long métrage, qui est un peu invisible maintenant, qui est une parodie de western,
Fistful of Fingers.
Il avait 20 piges, quoi. Donc il est d'une précocité dingue. Et quand il écrivait, quand il faisait des séries télé, notamment pour la BBC dans les années 90, il était régulièrement confondu avec un stagiaire ou un assistant de plateau, alors qu'il était réel et qu'il avait déjà une volonté, une vision, etc.
Ça tient à son physique aussi, peut-être, parce que même encore maintenant, il a beau avoir 43 ans.
Effectivement, ce petit enfoiré. C'est Benjamin Button, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il en a encore sous le coude, et je suis d'accord avec Stéphane, c'était qu'effectivement, lui-même a envie, je pense, d'alterner grosse machine hollywoodienne et film européen anglais. Si ça devait pas marcher à Hollywood, il ferait un autre truc. J'ose espérer personnellement qu'il va retourner avec Simon Pegg et Nick Frost sous peu.
Mais c'est une manière de dire aussi que c'est selon ses propres termes. On l'avait compris avec Ant-Man, mais en fait, il y a une démonstration. Je pense qu'il y a si revanche il y a, en fait, c'est l'idée de faire un film américain. De réussir un film américain. Ouais. Alors, est-ce que le film, là, on peut pas savoir, ça va être un carton. Il l'avait déjà fait avec Scott Pilgrim, mais c'est un film, moi, je trouve formidable, qui est totalement réussi et contrôlé jusqu'à la sortie, en fait, qui a été sabotée par le studio Universal, qui ne savait absolument pas quoi faire avec ce film-là. Ouais. Et apparemment, il y a eu un changement de studio, de chef de studio, en fait, à ce moment-là. Et c'était un projet qui était porté par une personne à une certaine époque. Et qui s'est fait larguer en fait.
En France, ça a été une sortie technique. Oui, le studio, on en avait strictement rien à foutre. Moi, j'ai démarché pour essayer de faire des trucs autour.
Oui, mais ça, c'était après le beat du film aux États-Unis. Mais le film aux États-Unis lui-même a été un peu bazardé en été, en fin d'été, sans promo. Plus véritable que de raison. Il y avait quelque chose à faire avec ce film en fait qui est très spécifique, qu'ils ont complètement mis de côté. C'est plus vendu sur l'aspect un peu hipster du film que sur l'aspect jeu vidéo, que sur l'aspect romance, que sous ces trucs-là.
C'est sur l'aspect OVNI, tout simplement.
Voilà, et je pense qu'il y avait vraiment une manière de ramener le public jeune dans ce film qui n'a pas été fait. Quoi.
Moi, je suis incapable de prédire le box-office de ce film-là. Je parle même pas de la France, mais juste aux États-Unis. Je sais pas les critiques, les premières critiques sont hyper élogieuses et tout. Le film, ça a cartonné quand il a été montré la première fois en mars au South by Southwest, là, à Austin, et en plus ça tombait bien parce qu'évidemment c'est un film qui est hyper musical, donc South by Southwest, il y a une partie film, une partie musique et tout, et donc le film, et c'est là que je crois que le studio Sony s'est dit, ah oui, il y a un truc à faire finalement sur la musique, on va peut-être pouvoir marketer et dire
ils ont avancé la sortie aussi
et ils ont avancé la sortie à ce moment-là, c'était prévu pour le tréfonds du mois d'août, c'est devenu fin juin pour États-Unis et Angleterre, et voilà, j'espère juste que ça va marcher pour le film parce qu'il a quand même un cast cool, il a la moyen de faire des spots TV hyper, pas putassier mais en tout cas aguicheurs, mais bon voilà.
Si on en croit les scores du dernier Pirate des Caraïbes, de Baywatch, de La Momie, ils ont peut-être envie, peut-être, je dis bien, hein, je sais pas, ils ont peut-être envie de voir autre chose.
C'est ça.
Les gens, donc, on peut croiser les doigts.
Et en même temps, c'est un film qui s'inscrit beaucoup dans l'esprit internet. D'ailleurs, on voit sur son compte Twitter, Edgar Wright relaie beaucoup de choses qui sont créées par la fanbase. Notamment, il y a un remontage de la bande-annonce qui est vraiment génial. Il y a pas mal d'affiches de fan art qui sont relayées. On sent qu'il fédère autour de lui toute une communauté.
Après, tu sais bien que ces connards d'internautes, ils vont télécharger sur Piranha Bay après.
Exactement ce que j'allais dire. Le problème, c'est que le contre-coup de ce côté ovni et d'être entre les genres, c'est que, en tout cas, les studios ont énormément de mal à marketer ce genre de film parce qu'ils ne savent pas dire ce que c'est. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le vendre comme un Fast and Furious, ils ne peuvent pas le vendre comme un.
Ouais, mais c'est le potentiel.
Comme un La La Land avec des voitures. Enfin, c'est difficile.
C'est le genre de film typique, qui est très rare, qui peut inventer sa propre singularité et en faire un objet de promotion, quoi, tu vois, je pense. Je dis pas que ça va être le prochain Pulp Fiction, hein, mais si le film est un succès, je pense que ça sera à cause de ça, en tout cas. Ouais.
On a commencé un petit peu à élargir au fil de la discussion sur la filmo d'Edgar Wright. On peut peut-être s'y mettre à deux pieds. Allons-y gaiement sur vos premiers souvenirs, sur comment vous l'avez vu débarquer un petit peu. On a commencé à le dire avec Shaun of the Dead, notamment, Stéphane.
Moi, typiquement sur Internet, en fait. J'ai entendu parler sur des forums, en fait, de ce petit film anglais... qui était évidemment dispo sur
quoi
en DVD anglais donc à l'époque et en fait j'avais lu que il y avait ce film étonnant quoi, donc je me suis procuré et puis je l'ai maté trois fois en fait dans le week-end où je l'ai chopé quoi, et du coup j'ai fait mais c'est qui ce mec qui a fait ce film complètement dingue, il y avait une espèce de, c'était un peu énervant d'ailleurs quand tu réfléchis à l'envers parce que à l'époque, il y avait un espèce de truc où les gens disaient, voilà, c'est un peu le 4 mariages et un enterrement gore.
Ouais, avec de l'horreur.
Ouais, avec de l'horreur. Et putain, 4 mariages et un enterrement, merde, mais c'est juste... c'est pas possible, quoi.
Il n'y a pas grand-chose à voir.
Voilà, c'est quoi après le Hot Fuzz? C'est le Love Actually des fusils à pompe.
On ne parle pas de Love Actually, Stéphane,
On s'arrête là. Et donc, le truc, c'est que quand j'ai découvert ça, je suis allé voir ce qu'avait fait Edgar Wright, tout ce qu'avait fait Nick Frost, Simon Pegg et Edgar Wright. Donc je suis tombé automatiquement sur Spaced qui sortait à ce moment-là et qui commençait déjà à avoir une aura culte en fait en Angleterre. Donc il sortait un très joli coffret double DVD avec les deux premières. Voilà, c'est toi qui me l'avais ramené. Voilà. Non mais voilà, tu vois, comme quoi on va pas sur les torrents. Et bref, et donc en fait, moi j'ai découvert le type à ce moment-là et par par internet littéralement. Mmh. Mais parce que je pense que ce genre de mec, en fait, c'est par là que la découverte se fait. Je pense que quand ça vient pas de ton pays et comme ce film-là a mis quand même un an à sortir après je crois en Angleterre c'était en 2004, en France c'était en 2005. Tout le monde avait pu le choper sur le net pour le coup, voire acheter le DVD hein, pour les plus ceux qui croyaient, ceux qui croyaient vraiment quoi. et quelque part c'est miraculeux, enfin c'est presque miraculeux que ça soit sorti. Il y avait un film un peu similaire à l'époque qui n'a rien à voir, hein, mais qui avait un buzz de la même sorte, était Shaolin Soccer, oui. Qui avait beaucoup tourné en DVD chinois. Je veux dire, même si tu parles pas super bien anglais pour les sous-titres et tout, c'était pas grave parce que c'était tellement visuel, tellement fort dans la comédie. Voilà. Fait, ouais. Et ben là, je pense qu'il y a un peu la même logique, si ce n'est que c'est plus le ton british en fait qui, je pense, plaît aux Européens. Et c'est parti de là, en fait, c'est parti de cette volonté-là. Ce qui fait que moi, j'ai énormément tout de suite attendu Hot Fuzz, même si j'avais un peu peur du syndrome du deuxième film parce que je trouvais que la parodie de cinéma d'action avait été faite tellement de fois, quoi. Mais enfin voilà, le film pareil, c'est on l'a vu en salle, en projo et
puis
tout.
T'avais un postulat barré quoi sur Hot Fuzz, c'est-à-dire faire un hommage aux films d'action notamment des années 80, beaucoup débordements pyrotechniques, ballet chorégraphié
entre Point Break et Bad Boys 2. Quoi, voilà. C'est ça l'idée quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui pouvait citer ça quoi.
Dans un village de petits vieux anglais quoi, de trucs qu'on a vu 150 fois dans les séries de Brian Clemens.
C'est ça qui est énervant quelque part. En fait, vis-à-vis du cinéma français, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir ça en fait en France, c'est-à-dire quelqu'un qui partirait du principe de prendre plus belle la vie et d'en faire un film d'action, quoi. J'en sais rien. Un truc
non, mais faire un film d'action, par exemple, avec l'univers des galettes de Pont-Aven, mon cher Thomas, toi.
Bien sûr.
un petit village non, breton,
voilà, on dirait de la mousse.
Et le problème, c'est que voilà, il faut que ça soit, on se dit, c'est possible, c'est fait avec 3-4 millions d'euros de l'autre côté de l'Atlantique, donc pourquoi pas en France, quoi. Et c'est une démonstration, un peu comme quand tu à la même époque, un peu tu découvrais REC et tu disais, mais ça n'a même pas coûté 1 million d'euros, pourquoi on n'a pas eu cette idée là quoi. C'est faisable en fait.
Il n'y a eu pas très normal l'activité avec Norman.
Pas mal.
Donc voilà, moi mes premiers souvenirs c'est ça, c'est à dire que je me suis un peu tout bouffé en même temps à la sortie de Shaun of the Dead en DVD et ça a été. Enfin, moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir découvert un cinéaste avec une patine, un mec qui comprenait. Mmh. Parce qu'encore une fois, c'est pareil, à l'époque on n'avait pas encore YouTube, on n'avait pas encore tous ces trucs-là. Donc je veux dire, quand tu avais Trey Parker Matt Stone en fait, qui commençaient à citer des films que tu avais l'impression d'être le seul à connaître. Et que là, c'était un peu la même chose que dans Spaced, les mecs, en fait, ils font mine de... Aujourd'hui, tu vois ça 150 millions de fois avec des gosses qui font leurs vidéos sur YouTube. Mais des mecs qui font mine de se tirer dessus en pointant des doigts et en faisant comme si c'était des flingues. Bah, je veux dire, et que ça soit instinctivement compréhensible en termes de code de cinéma, que le mec, il arrivait à parodier ça et que ça, c'était à la fois fun à mater. Tu comprenais la parodie, mais en même temps, tu disais, putain, il y a de l'énergie, c'est bien foutu, quoi. Ça pourrait être une scène d'action s'ils avaient des flingues, en fait. Bah voilà, t'en as pas 36 000 des mecs comme ça. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment plu à l'époque. Et ce qui a fait que j'ai voulu suivre sa carrière et confirmé avec Hot Fuzz, quoi.
Bah moi, j'étais fan de 4 mariages, un enterrement. et on m'avait dit, vas-y. Non, moi, c'est sensiblement la même histoire, sauf que j'avais attendu la sortie en salle en France. Alors que pourtant, je piratais comme un porc à l'époque. Mais il se trouve que c'est via la presse française qui, quand même, dans une certaine mesure, s'en était globalement bien fait l'écho. Bah, je pense à Mad Movies à l'époque qui avait quand même bien soutenu le film.
Moi.
Bah voilà, c'est ça. Donc évidemment, tu vois, par ricochet.
Merci Stéphane.
Merci. Donc ouais, j'avais vu ce film-là et tout. Et puis ça est sorti en juillet 2005, effectivement, en France. Ça avait pas dû faire un score extraordinaire, j'imagine. Mais tout de suite, ce mélange-là. Ce qui était formidable, c'était qu'on venait de sortir d'une période un peu compliquée en termes de mix comédie-horreur avec toute la ribambelle des scary movies, quoi.
Oui.
Qui en plus à l'époque était plus ou moins
sombre
période, mais alors il y a eu des hauts débats parce que au départ c'était les frères Wayans et tout.
Pas mal le premier scary movie.
Ouais, il y a toujours des choses à sauver, là, mais bon, voilà. Mais du coup, c'était la première fois que je me rendais compte qu'on pouvait rire vraiment avec des éléments horrifiques, mais sans d'une part, pas sans gag de caniveau ou rat des pâquerettes. pipi caca, oui. Mais surtout sans, en étant réussi et pas dans le clin d'œil permanent, le cynisme post-scream, etc.
Oui. C'est-à-dire qu'il y avait avec un véritable amour de ce cinéma-là, avec aussi, un amour de ce sens dans
un amour de ce cinéma-là qui transparaît, un langage visuel hyper drôle et puis une franche camaraderie. Enfin, moi pour moi c'est l'espèce de relation entre Sean et son pote, putain, j'ai oublié le nom du personnage de Nick Frost, mais qui voilà est un truc qui donne au film sa fin à la fois très drôle et très touchante. Ouais. Et voilà, tout ce film-là pour moi c'était un petit miracle en termes de gestion de ton, humour, premier degré, voilà, touchant, drôle, voilà. Et puis il y avait aussi des acteurs, même si à l'époque je ne les connaissais pas tous, de voir Dylan Moran de Black Books dedans en second rôle et tout, je me suis dit, ah putain, c'est quand même pas des brels aussi ceux qui sont à côté, Bill Nighy, tout ça, c'est un peu la crème.
C'est Arnaud, c'est vrai qu'aussi, que Stéphane voulait intervenir, mais Arnaud, vas-y.
Il y a un truc aussi, je pense, dans ce film-là, dans Shaun of the Dead, qui a parlé à la génération de fanboys des années 2000, quoi. Des gens qui se gaufraient des filles, qui s'engouffraient, qui passaient des soirées à s'engouffrer des films, à en discuter, à en commenter. Enfin voilà, moi je pense.
Ce qui est en fait le cas d'Edgar Wright et Nick Frost et Simon Pegg, qui sont des copains qui ont vécu comme ça.
Ouais, et puis moi je me rappelle, excusez-moi d'étaler notre vie privée, quoi, mais à l'époque,
on passait des
nuits avec Stéphane à mater des films, à en discuter jusqu'à 5h du mat. Et quand on voit débouler un film comme ça, on se dit, ah putain, c'est pour nous, quoi. Il oui. y a un véritable phénomène d'identification. Et je pense qu'il a fait le succès, notamment sur Internet, comment ça s'est répandu, des gens qui aimaient tous les cinémas auxquels Wright rendait hommage, et à la manière dont ils s'en emparaient, évidemment, et parce qu'ils se reconnaissaient profondément dans ce film-là. Je pense que chaque génération a produit une culture de masse, quoi. Et alors, bon, pour l'Angleterre, c'est toutes les romances à deux balles, les coups de foudre à Notting Hill, les trucs comme ça. Mais il y a un moment où ça se cristallise sur une œuvre qui répond à cette culture de masse, mais qui en même temps correspond intimement vraiment à cette génération, quoi. Et Shaun of the Dead, c'est ce genre de film.
C'est vrai que l'idée d'intégrer, entre guillemets, les geeks dans des récits, en fait, si tu veux, qui sont. Alors, peut-être pas relativement nouveau à l'époque, mais en tout cas, bien fait et vraiment naturel, en fait, c'était ça. C'était quand même
de manière respectueuse.
De manière respectueuse, voilà. C'est pas Revenge of the Nerds, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était 2-3 ans avant Apatow et la clique, tu vois. Donc, la camaraderie dont il parlait, c'est ça, en fait. C'est là où je voulais un peu rebondir quand il en parlait. C'est vrai, en fait. Il y a ce truc. Et puis, il y a cette idée de grandir aussi pas grandir le genre, parce que c'est pas vrai, je pense que c'est un vrai fan de films de zombies, en l'occurrence, c'est pas un souci, ça se voit en fait quand ça tu regardes le film. Mais évoquer en un détail, si tu veux, Voyage au bout de l'enfer. C'est-à-dire que la relation émotionnelle entre ces deux personnages dont tu parles, bah, en fait, quand tu vois que le mec utilise le référent sans jamais en fait citer explicitement le film, en fait, sans appuyer dessus, Voyage au bout de l'enfer, et quand on sait de quoi parle Voyage au bout de l'enfer, là, seul coup, ta cinéphilie, en fait, elle te renvoie à cette chose. Oui. Tu dis, je connais ce turban sur la tête, tu vois, je sais d'où ça vient. Mais en fait, moi, ça m'a pris, c'est la deuxième fois que je me suis rendu compte, je fais putain, il a le bandeau de Voyage au bout de l'enfer. Et pourquoi il utilise le bandeau? Ah d'accord, putain. Ah ouais. Et
en fait, son pote est zombifié après.
Voilà, donc il est resté au Vietnam. Voilà, en fait, il y a tous ces trucs en fait qui font que tu te dis putain, c'est ça en fait, un an et demi d'écriture, c'est-à-dire reprendre tous les trucs, les réintégrer, que tout fasse sens, et que même si tu le vois pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, si tu connais les films, tu le sens. Il y a quelque chose qui passe en fait. Il y a une info qui passe. Et voilà. Et puis voilà l'aspect encore une fois complètement décomplexé de ça, c'est-à-dire avoir conscience que Last Action Hero, par exemple, quand tu fais Hot Fuzz, Last Action Hero a déjà une dizaine ou quinzaine d'années, que ça a déjà traité un certain type de cinéma, et que le mec se dit, ok, on va parler du cinéma des années 80, 10, 2000, on va parler de Tony Scott, on va singer le style Tony Scott, parce qu'on aime ce style-là, mais on va le faire avec des vieux, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, des vieux roast beef un peu fatigués qui se battent avec des tiges de, comment dire, pour attiser les braises dans un tisonnier, merci. Voilà. Donc le truc, c'est
dans les bonnes petites cheminées bretonnes.
Voilà, t'as ça avec du Tony Scott, de la mise en scène à la Man on Fire, quoi, tu vois, du montage syncopé à la Man on Fire. Donc le mec, qui cite Point Break, et qui a juste les couilles de citer mérité Bad Boys 2, quoi. Je veux dire, on sait tous à cette table que Michael Bay est un génie. Personne n'ose le dire.
Ça t'a fait plaisir, ça. Espèce de saloperie.
J'attendais le moment. J'attendais le moment où on arrive à Bad Boys 2. David, ce sera le mot de la fin. Ce sera pour toi. Tu as de la chance.
Non, et puis c'est ça qui est, c'est ça qui est important en fait dans ce que raconte Edgar Wright. En fait, c'est la sincérité avec laquelle il parle de ça. C'est-à-dire que les personnages de geeks passionnés qu'on retrouve dans ces films, ils sont pas là parce que c'est à la mode ou quoi que ce soit. Et le parallèle avec ce que fait Apatow un peu après, c'est effectivement exactement la même démarche. C'est-à-dire c'est raconter l'histoire de personnages. Bon, alors on est dans un truc de mecs. En plus, on est tous des mecs autour de la table.
Mais
c'est un univers très très masculin de mecs qui se retrouvaient. En partie pour leur culture et ce qui les passionnait, un petit peu marginalisé, ce qui a évolué avec le temps parce que cette culture-là est devenue mainstream, mais que du coup tout ce qui est vécu et raconté par ces personnages et ces références, et effectivement le fait de mettre finalement un peu au même niveau Bad Boys 2 ou enfin Michael Bay ou Michael Cimino, c'est aussi témoigner du sérieux avec lequel il aborde le cinéma et avec lequel il aborde sa passion. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ses films et qui aujourd'hui trouve tout son éclat dans un film comme Baby Driver.
Et en maintenant sa singularité, c'est-à-dire que même l'idée, on parlait de World's End, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le sujet du film littéralement. En fait. Oui. C'est-à-dire que le sujet du film, c'est de dire arrête de boire le café que tout le monde boit, arrête d'écouter la musique que tout le monde écoute, arrête de penser à ta putain de vie de passé, arrête de... Tu vois, et voilà, en fait, quand un mec comme ça, en fait, qui a le poids, enfin le doigt, en fait, sur la pop culture, vraiment, le dit... Quand tu te bouffes ça au milieu de tous les films qui vont dans le sens du vent, en fait, ça fait plaisir, quoi. Cette singularité fait plaisir.
David, et c'est pour ça que je voulais ajouter un truc sur sa singularité et l'importance de l'identité britannique dans son cinéma. Je voyais ces derniers temps tourner sur Twitter, notamment il y a le distributeur Jean Labadie qui partageait une liste des films préférés d'Edgar Wright en le dénigrant, en disant oh, regardez, il aime que du cinéma américain. Sauf que c'est un mec qui est effectivement abreuvé par le cinéma américain, mais qui oublie pas qu'avant tout c'est un putain d'anglais, et que ce qui rejaillit dans ses films, c'est son identité d'anglais. Et tout ça, ça repose sur la sincérité et sur le fait de raconter ce qu'on vit et ce qu'on aime.
Une sincérité qu'on retrouve donc en ce moment au cinéma avec Baby Driver. Notre temps est écoulé, merci à tous les quatre, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Il faut retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous utilisez iTunes pour écouter cette émission, sachez qu'un geste simple peut nous apporter beaucoup. Laissez-nous un commentaire sympa tant qu'à faire, et surtout plein d'étoiles, ça nous aide énormément. On vous remercie d'avance, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.